journée de notre dense semaine de voie publique. Et ce soir, je remercie Nicolas Levéziel, de notre conférence à la faculté de médecine de Poitiers, et qui a bien voulu accepter, malgré un emploi du temps extrêmement chargé, de venir nous parler aujourd'hui d'un côté que peut-être certains d'entre vous trouveraient un peu aride, je ne sais pas, mais qui est malgré tout extrêmement important à comprendre, qui est ce qui se passe sur le plan de la physiologie entre la perception, entre l'objet que nous percevons et puis la sensation que nous recevons, en gros, vous allez vous dire avec moi, la sensation que finalement notre cerveau se forme de cet objet que nous avons perçu. Alors, il m'a dit, vous pourrez tenir en trois quarts d'heure à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça, donc en principe, à peu près trois quarts d'heure d'exposé, ce qui nous laissera largement le temps de lui poser toutes les questions nécessaires et puis de discuter éventuellement entre nous, si nous souhaitons. Merci beaucoup.
Merci à vous de m'accueillir ce soir pour parler. Alors moi, je suis ophtalmologiste au CHU de Poitiers. Donc évidemment, mon propos sera plutôt de parler de l'ophtalmologiste du côté perceptif, donc du côté de la perception des sens. J'en profite pour remercier Voix Publique de m'avoir proposé de discuter et de parler de ma matière de prédilection. Donc en pratique, quand on revient sur les sens, on a différentes façons d'appréhender les sens. On peut déjà imaginer ou définir les sens selon ce qu'on ressent de l'intérieur, ce qu'on appelle la proprioception, avec des informations sur nous-mêmes, l'équilibre, le mouvement, la douleur par exemple, la viscéroception, le fait de sentir ses organes internes bouger, tout ça, ça appartient en fait à la proprioception. Et il y a aussi l'extéroception en fait, qui est les informations qu'on reçoit du milieu extérieur. Alors proche ou contact, si c'est par exemple le goût ou le toucher dont on vous a déjà récemment parlé, ou ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit comme information plutôt distante, qui est par exemple l'audition, l'odorat ou la vue. Alors, quand on regarde ces trois derniers sens, on voit que l'audition, elle intègre environ 25 000 fibres nerveuses qui partent des récepteurs auditifs. L'odorat, 10 000 fibres nerveuses environ. Par contre, avec la vue, ça se complique un peu plus, puisque ça inclut environ 1 million de fibres nerveuses qui circulent dans le nerf optique et qui sont connectées à la rétine. Donc, un tiers du cortex, globalement, joue un rôle dans le traitement et l'élaboration du message visuel. Et ça, c'est très variable, évidemment. Ça, c'est pour l'homme, mais c'est très variable selon les espèces. Il y a des espèces qui n'ont quasiment aucune vision. Je pense aux animaux qui peuvent se déplacer avec des ultrasons comme les chauves-souris ou des animaux qui vivent, par exemple, sous terre. Donc, l'homme a un développement très important du système visuel et globalement l'information visuelle représente environ 40% de ce qu'on reçoit en termes de perception et en termes d'extéroception. Donc c'est très très important et finalement je vous vois là et j'ai une idée des personnes qui sont dans la pièce, de la structure de la pièce grâce à ma vision. Mais si j'étais une chauve-souris, j'aurais une idée grâce de la structure de la pièce et des personnes qui sont là grâce à l'émission d'ultrasons. Et si, par exemple, j'avais un odorat très, très développé, je pourrais peut-être avoir une perception tridimensionnelle de la pièce grâce à mon odorat. Donc, le système visuel est très développé chez l'homme et c'est ce qui est très intéressant et ce dont on va parler. Alors, finalement, on ne voit pas les objets eux-mêmes, mais on voit la lumière qui se reflète sur les objets. Et la lumière, finalement, il y a plusieurs façons de l'appréhender. Elle est transmise, par exemple, peu atténuée, à très atténué. L'air, par exemple, n'atténue quasiment pas la lumière, mais le rideau, la lumière qui passe au travers d'un rideau est partiellement atténuée. Par exemple, elle peut être réfléchie comme par rapport à un miroir ou à une glace ou à une surface comme de l'eau. Elle peut être diffusée au travers d'un abat-jour et elle peut être absorbée. Donc ça donne ces images-là que l'on peut percevoir. Là, c'est un tableau de Vermeer de Delft où c'est la liseuse, en fait, elle lit une lettre. Et évidemment, tous ces jeux de lumière font la beauté de ce tableau. Et dans un tableau de Fantin de la Tour, c'est pareil. On est dans l'obscurité, mais simplement la lumière qui émane de la bougie donne cette beauté à ce tableau. Et donc, finalement, la lumière, on perçoit les choses uniquement grâce aux couleurs, grâce à la lumière. Et le noir, lui, ne reflète rien, bien évidemment. Alors finalement, la perception visuelle, c'est un processus de recueil et du traitement des informations externes qui permet d'appréhender l'environnement proche, on peut regarder sa montre par exemple, ou l'environnement très lointain, comme par exemple regarder les étoiles. Et la perception visuelle est sous-tendue par différents mécanismes, notamment des mécanismes biophysiques, simplement optiques ou de transmission et de transmission électrique. Je pense à l'optique évidemment, car tous les milieux oculaires n'ont pour but finalement que de transmettre la lumière au photorécepteur. Il y a des phénomènes biochimiques après qui vont transformer le message visuel en un message électrique qui circulera dans le nerf optique, puis dans les différentes voies visuelles, pour finalement aboutir à une interprétation des choses, des choses visuelles, par des phénomènes cognitifs assez complexes, finalement. Alors là, je vous montre, par exemple, différentes images. Ça, c'est le fond d'œil. Moi, j'en vois des dizaines par jour. C'est un fond d'œil d'un patient normal. On voit donc le nerf optique. Alors, le nerf optique, il mesure environ 1,5 mm de diamètre. C'est quand même incroyable, un si petit fil conducteur qui conduit autant d'informations visuelles. Si, d'un point de vue miniaturisation, on arrivait à rendre des caméras avec un fil aussi large, ça serait évidemment une révolution. Donc le nerf optique, avec là, c'est le centre de la rétine, on appelle ça la fovéa. Et globalement, la fovéa est responsable de la vision des couleurs. Elle nous permet de lire et de voir les choses très fines. Et le reste de la fovéa, ça représente environ 5% de la surface de la rétine, donc c'est très peu, mais en termes de rétinotopie, en termes de projection sur le cortex cérébral, et notamment dans les aires visuelles, ça représente environ 30%. Donc c'est très très important, elle nous renseigne, elle nous donne des informations très sensibles, et par exemple, certains animaux, beaucoup d'animaux n'ont pas de fovéa, les rongeurs n'ont pas de fovéa, ils ont d'ailleurs une très mauvaise vue, par contre, certains animaux en ont plusieurs, comme les rapaces, les oiseaux ont souvent deux fovéa. Donc ça leur permet une vision évidemment beaucoup plus fine. Alors ça, c'est la vision centrale finalement. Et la vision périphérique, c'est le champ, on parle de champ visuel dans ces cas-là. Alors la vision centrale, elle permet une excellente résolution, donc, mais le souci, c'est qu'il n'y a que quelques images par seconde. Et elle permet donc les couleurs, les contrastes, les détails. La vision périphérique, on a plusieurs images par seconde et ça permet notamment le champ visuel. Ce qui fait qu'une personne qui a une atteinte centrale de la rétine avec une très mauvaise vision peut tout à fait se déplacer chez soi, éviter les objets et tout, grâce à son champ visuel périphérique. À l'opposé, certaines pathologies qui touchent le champ visuel périphérique laissent au patient seulement une vision centrale tubulaire qui les gêne beaucoup pour se déplacer, ils tombent dans les escaliers par exemple, mais ils ont une vision centrale pour lire. Alors je vais vous parler, le plan sera celui-ci, on parlera tout d'abord des modèles de perception visuelle selon les époques, il y a une ou deux diapos à ce sujet. Après, on va parler du modèle de la perception visuelle actuellement, c'est-à-dire comment le message, finalement, le stimulus lumineux traverse l'œil et est transformé en phénomène électrique et comment il est interprété après par nous-mêmes. Et ensuite, la perception et les maladies. J'ai deux diapos sur les pathologies rétiniennes, en fait, globalement, pour expliquer un peu ce que ressentent les patients. Alors, en fait, selon les époques, c'est assez intéressant. Il y a plusieurs théories qui ont été émises initialement dans l'Antiquité. Avec la première théorie, c'était la théorie intramissionniste, qui considérait finalement que l'œil ne recevait pas d'informations par rapport aux objets, mais il émettait un influx qui venait capter un peu les objets, un peu comme un sonar, si vous voulez, ou comme un radar. Il venait capter les objets qui passaient dans l'influx. Et c'est une théorie qui avait été émise par Pythagore, Euclide, Empédocle et d'autres philosophes grecs. Et vous avez là notamment, ça c'est Galien, donc qui avait, et un exemple qu'ils donnaient souvent, c'était que finalement, les félins, quand on les voit dans l'obscurité, les chats, on voit souvent une lumière, enfin un reflet lumineux, donc ils citaient cet exemple en disant qu'on voyait le rayon lumineux qui émanait de l'œil du chat, mais en réalité, évidemment, c'est un biais, si on est dans la véritable obscurité, on ne verra pas ce rayon. Et il y a la théorie extramissionniste qui est un peu plus évoluée, qui considérait finalement que les objets étaient détectés par les rayons en quelque sorte qu'ils émanaient vers l'œil. Et Épicure et Aristote ont développé cette théorie. Et finalement, c'est Alhazen qui est le père de l'optique, en fait, qui est considéré comme le père de l'optique, qui a montré que finalement, il a cité comme exemple le fait que on peut être ébloui par une lumière en regardant le soleil, par exemple. Et donc, c'était pas nous, c'est pas l'homme qui envoie les rayons lumineux vers les objets, mais c'est plutôt les objets d'où émane une lumière ou d'où sont reflétées des lumières qui permettent aux hommes de voir, en fait, globalement. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, très longtemps, les hommes ont été un peu dupés par les différentes structures oculaires. Par exemple, Galien considérait que l'organe de la vision, Galien, c'est le père de la pharmacie, il considérait que l'organe de la vision était le cristallin. Et Alhazen, lui, a été le premier à supposer et à dire que finalement, la rétine était sans doute, un récepteur visuel. Donc il donnait le rôle du cristallin supposé par Galien plutôt du côté de la rétine, lui. Et il a, par exemple, à la Zen, travaillé sur le pouvoir grossissant des lentilles. Il a développé un traité d'optique aussi où il donne un peu son image de la perception visuelle. Donc c'est un point très très important. Là, c'est à la Zen et là c'est son traité d'optique. Alors en fait, les modèles de perception visuelle sont assez complexes. Et là je vais vous parler plutôt du côté anatomique tel qu'on le perçoit actuellement. Alors en fait, les photorécepteurs contiennent des photopigments sensibles à la lumière, et le rayon lumineux qui va émaner des objets va traverser la cornée, qui est un organe complètement transparent normalement. Il y a des pathologies qui entraînent des anomalies de la cornée qui gênent évidemment l'arrivée d'un rayon vers la rétine. Donc il va traverser la cornée, il va traverser ce qu'on appelle la chambre antérieure. La chambre antérieure de l'œil est remplie d'humeur aqueuse qui est sécrétée par les procéciliaires que l'on voit ici. Et cette humeur aqueuse est complètement aussi transparente. Il va ensuite traverser le cristallin qui est un peu considéré comme une lentille, biconvexe, et il va arriver sur une zone de la rétine qu'on appelle la fovéa, qui est un peu à côté du nerf optique, tel que vous l'avez vu sur la photo. Et finalement, qu'est-ce que ces structures antérieures, comme la cornée, la chambre antérieure, le cristallin, ce sont des dioptres. Ce sont des instruments d'optique, finalement, dont le but est d'amener la lumière sur la fovéa. Et par exemple, les patients myopes ont souvent un œil un peu plus grand. Vous imaginez plutôt un ballon de rugby, par exemple, un œil un peu plus grand, et leur problème, c'est que la lumière, le point de focalisation sera situé en avant de la fovéa, ce qui explique pourquoi les myopes portent des lentilles divergentes. On met un verre divergent de façon à repousser le point de focalisation sur la fovéa pour qu'ils puissent voir clair. À l'inverse, un hypermétrope, un œil plus petit, et on met des lentilles convergentes pour permettre au point de fixation de se rapprocher de la fovéa. Alors finalement, les différents pigments oculaires vont permettre en fait une cascade complexe de réactions intracellulaires. Et ce qui est étonnant en fait dans le système visuel, c'est que dans notre système à nous, visuel humain, c'est que finalement la lumière va traverser ces milieux-là et va arriver sur la rétine. Et la première cascade d'événements biochimiques qui va intervenir au niveau des photorécepteurs qui sont là. Donc la lumière va traverser toutes les différentes couches de la rétine, il y en a 10. Pour activer la cascade de transduction au niveau des photorécepteurs. Les cônes et les bâtonnets, en fait, sont reliés. Les cônes et les bâtonnets, ce sont les photorécepteurs. Il y a beaucoup plus de cônes au centre de la rétine qu'en périphérie. Il y a, à l'inverse, beaucoup plus de bâtonnets en périphérie qu'au centre de la rétine. Les cônes sont les cellules qui permettent notamment la vision des couleurs. Les bâtonnets ne permettent pas, de point de vue précis, cette vision des couleurs. Les bâtonnets sont plus impliqués dans, par exemple, le champ visuel. Et donc, les cônes et les bâtonnets sont reliés à d'autres cellules, qui sont un peu des circuits électriques, qui vont permettre la transmission de l'influx électrique vers le nerf optique. Alors là, je vous montre une image, une coupe histologique, enfin une pseudo-coupe histologique d'une rétine. Avec ça, c'est la cavité vitréenne. La cavité vitréenne, c'est ça. C'est un gel, en fait, le vitré, un gel assez visqueux, qui se liquéfie avec l'âge et qui aussi transmet la lumière de façon sans la dégrader, si je puis dire. Et donc il y a le vitrée, les différentes couches cellulaires et l'influx visuel va arriver sur ces cellules-là. Et après, ces cellules-là vont transformer l'influx visuel en un influx électrique qui va circuler avec différentes jonctions avec d'autres cellules qu'on appelle les synapses au niveau des fibres ganglionnaires, puis être relayées par le nerf optique. Alors là, vous avez une couche de rétine. Et la rétine est un organe vraiment très complexe. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un organe très, très structuré. Vous voyez, il y a des couches comme ça, précises. Ça me fait penser à un sandwich chez je ne citerai pas de... Mais il y a des couches très, très précises, enfin, voilà, qu'on retrouve. Et c'est vraiment un système très, très complexe, avec des cellules qui ont différentes fonctions. Il y a le photorécepteur, des cellules bipolaires et des cellules ganglionnaires qui transmettent le stimulus lumineux. Alors ça, c'était pour parler relativement simple de ce phénomène. Après, ce qui est vraiment très intéressant aussi, c'est que la lumière, un influx, vous voyez quelqu'un qui bouge dans la rue, vous pouvez percevoir à quelques dizaines, voire centaines de millièmes de secondes qu'il y a un mouvement, par exemple. Et tout ça est sous-tendu par un phénomène par des phénomènes biochimiques, une cascade de réactions biochimiques, de réactions impliquant différentes protéines, comme la phosphodiestérase par exemple, ou comme le rétinol. Et cette cascade de biochimique, de différentes réactions moléculaires, va aboutir à la formation, à une hyperpolarisation des cellules et à la naissance d'un potentiel d'action. Le potentiel d'action, c'est au niveau neuronal le courant électrique qui passe dans un fil. Hein. Et ce potentiel d'action va après circuler dans le système nerveux central. Alors là, vous avez le cycle visuel de régénération des photopigments, parce que les photopigments changent de conformation avec l'arrivée d'un photon, avec l'arrivée de la lumière. Et en changeant de conformation, évidemment, il faut qu'après, ils puissent retourner à leur conformation initiale pour pouvoir être réutilisables. La nature déteste faire du gaspillage et elle réutilise des molécules comme ça. Alors là, c'était le côté rétinien. Après, le potentiel d'action va circuler dans le cerveau, va circuler via différentes voies visuelles dans le cerveau. Et finalement, le cortex visuel, ça représente 20 à 25% du cortex, avec 5 milliards de neurones qui sont impliqués dans différents mécanismes. Et on parle d'aires visuelles rétinotopiques qui correspondent en fait à des projections de la rétine sur le cortex visuel. Certaines zones de la rétine peuvent être retrouvées sur le cortex visuel de façon reproductible d'un individu à l'autre, par exemple. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la région fovéale, la petite région qui représente 5% environ de la surface de la rétine, est représentée sur le cortex visuel avec une grande surface. Et il y a un phénomène logarithmique qui expand la surface de la fovéa sur le cortex visuel. C'est amplifié, si vous voulez, de la région fovéale au cortex visuel. Alors là, vous avez la fovéa, donc l'influx, ça passe par le nerf optique. Après, il y a un premier relais dans le corps genouillé latéral. Et après, ça repasse par ces faisceaux et c'est projeté au niveau du cortex visuel primaire. Alors, le message électrique issu de la rétine contient en fait déjà des informations importantes. Mais d'un bout à l'autre du processus, il y a une intégration des informations et une évolution de plus en plus complexe de ces informations. Donc déjà, la rétine, elle a les informations de couleur, de contraste, de mouvement, par exemple, de forme. Mais à chaque étage du système nerveux, du système visuel, il y a un traitement de l'information. Par exemple, il y a certaines choses que la rétine ne sait pas faire. Les cellules rétiniennes ne sont pas sensibles à l'orientation d'un objet. Et ça, on le trouve, on a les premières cellules sensibles à l'orientation d'un objet dans le cortex cérébral, par exemple. La localisation dans l'espace d'un objet ou l'appréhension de la direction, la direction d'un mouvement, par exemple, commence à se faire au niveau cérébral et non au niveau rétinien. Mais de la rétine au cortex, ces informations sont progressivement séparées en deux canaux, en fait, avec un premier canal, un premier réseau de fibres, si vous voulez, ou des premières voies qui reconnaissent les détails, les objets dans leurs détails, en traitant les informations de forme et de couleur, par exemple, et un autre canal qui est plutôt dédié au mouvement des objets, en traitant les informations de contraste, par exemple. Là, vous avez la présentation de ces canaux. Donc, il y a une projection sur les aires visuelles primaires qui sont représentés ici. Vous voyez, là, ça s'appelle une scissure, les sillons au niveau du cerveau, du cortex. Et à partir de ce cortex visuel primaire, il y a une projection par des fibres, par un réseau de fils électriques, encore une fois, vers la partie dorsale et vers la partie ventrale du cerveau. Et la voie ventrale, on parle de voie du quoi. Pourquoi ? Parce qu'elle donne des informations sur la forme et sur la couleur, et elle permet de reconnaître des objets. Et il y a des anomalies cérébrales qui peuvent aboutir justement à des agnosies, agnosies sensitives. Par exemple, les patients voient un objet mais ne savent pas ce que c'est. Par exemple. Et il y a la voie dorsale qui permet en fait, ce qui est la voie du où, et qui donne des informations de mouvement et de position. Elle nous permet de savoir si une voiture va dans un sens ou dans l'autre, par exemple, ce qui est quand même assez important, et surtout quand on veut se garer. Et par exemple, elle permet après cette voie, par le biais de connexion avec d'autres parties du cortex, de nous déplacer pour ramasser un verre qui va tomber ou d'éviter quelque chose. Donc elle permet aussi, elle met en relation cette zone-là avec d'autres parties du cortex. Donc il y a toute une intégration des processus qui sont de plus en plus complexes et qui nous permettent finalement d'avoir une idée à peu près précise de l'environnement dans lequel on évolue. Alors vous avez les différentes voies visuelles dont j'ai parlé, et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une... Vous voyez, je vous ai parlé de rétinotopie tout à l'heure, c'est la façon dont la rétine se projette au niveau du cortex visuel, et vous avez les voies optiques, alors là c'est le nerf optique, hein. Après là c'est le chiasma optique, le chiasma c'est un endroit où les fibres elles se croisent, on appelle ça DQC, elle décusse, et après c'est projeté au niveau du corps genouillé latéral, et il y a les radiations optiques qui se projettent sur les aires visuelles primaires. Et en fait, par exemple, la partie nasale de la rétine, nasale par rapport au nerf optique, elle croise toujours, vous voyez, elle passe de l'autre côté du cortex. Et là j'en reparlerai quand on parle de pathologie, parce que justement le fait d'avoir un réseau électrique qui est toujours le même, on peut tout à fait nous cliniquement localiser finement, à peu près finement, une pathologie, par exemple une tumeur cérébrale, en ayant une idée du champ visuel du patient. Et là, vous avez une autre coupe en fait, qui montre ça. Et les fibres ganglionnaires qui véhiculent l'information visuelle sous forme de messages électriques, elles font un premier relais au niveau, justement, au niveau du corps genouillé latéral, avant de se projeter sur le cortex visuel primaire. Donc il y a différentes théories de la perception visuelle. Il y a une première théorie qui a été évoquée en 1979, qui est la théorie écologique, qui considère que le monde visuel est le reflet de stimulation externe. Ce qui fait que, globalement, sans intégrer de processus cognitif. Donc c'est une théorie un peu simpliste. Et il y a finalement, on sait maintenant, et on le sait par l'expérience clinique, que le monde visuel est aussi une construction interne. Il y a un phénomène cognitif qui intègre cela. J'en parlerai quand je montrerai des exemples. Il y a cette théorie connexionniste, en fait, qui a été développée par Marr et Grossberg en 82, qui postule le fait qu'il y a des réseaux de neurones articulant et complétant les stimuli visuels, et les images rétiniennes sont filtrées à différents niveaux visuels de façon à... Elle part d'un stimulus relativement simple qui est analysé et qui est complété par des phénomènes un peu cognitifs. Et il y a la théorie cognitiviste, hein, développée en 83 notamment, mais aussi à partir de 72, qui considère qu'il y a des processus cognitifs plus complexes, sous-tendus notamment par l'apprentissage et la mémoire à long terme ou le raisonnement déductif, qui font que le message visuel, la perception visuelle, est ce qu'elle est actuellement. Et par exemple, je vous citerai des exemples tout à l'heure à ce sujet. Alors par exemple, comment est-ce qu'on peut étudier ces approches cognitivistes, par exemple, il est difficile de les étudier de façon anatomique. On n'a pas des outils suffisamment puissants qui permettent de suivre une fibre d'un bout à l'autre de la rétine au cerveau, par exemple. Et il peut y avoir des connexions entre les cellules. Donc c'est très difficile. Alors, on peut mieux comprendre le système visuel, la perception visuelle, en utilisant des illusions. Pourquoi ? Parce que les illusions, on a une illusion, donc on se trompe. quand on interprète, quand on voit cette chose, une illusion, on se trompe. Et le fait d'essayer de comprendre pourquoi on se trompe peut expliquer le comportement, enfin le caractère cognitif de la vision, de la perception visuelle. Alors le processus cognitif impliqué dans la perception visuelle implique la distance à l'objet, qu'on peut nous évaluer, qu'on évalue tous grâce à la convergence des yeux, par exemple, de nos yeux, la profondeur, la perspective, la taille de l'image formée par l'objet sur la rétine, et la taille, déjà, ça donne des informations, et la taille relative des objets, notamment l'apprentissage environnemental impliquant la mémoire. Alors, par exemple, là, vous avez une illusion de perspective. Vous voyez, on a l'impression que les deux traits sont de taille différente. Vous êtes d'accord? Alors qu'en fait, les deux traits sont de la même taille. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, le système visuel, on a l'apprentissage qui fait que tout au cours du développement, quand on est petit, tout au cours du développement, on met en avant le côté 3D par rapport au côté 2D. On sait qu'un monde 2D n'existe pas. Enfin, quand on se voit, là, on en a la preuve. Et du coup, le cerveau, si on lui donne une illusion de perspective, va rapporter en 3D ce qui est en 2D. Et nous, évidemment, l'illusion de perspective, c'est ça. C'est ces lignes fuyantes, obliques, qui nous donnent l'impression d'un couloir. Et donc, évidemment, intuitivement, pour nous, ça... c'est la même taille que ça. Pas la même taille, je veux dire, c'est rapproché. Et alors que, en fait, c'est pas rapproché du tout en 2D. Donc le cerveau analyse une image comme une image 3D avant de considérer que c'est une image en 2D. Un autre exemple, ces deux lignes-là, ça s'appelle l'illusion de Ponzo, développée en 1913, elle montre un effet de perspective créé, pourquoi ? Par ces deux lignes-là, vous voyez ? Qui donne une perspective un peu de ligne de chemin de fer, je vous l'ai représenté là. Et en fait, c'est comme si, encore une fois, qu'on percevait en 3D quelque chose qui n'est qu'en 2D. Cette image est en 2D et c'est la même taille. Les deux traits sont de la même taille. Voilà. Donc la rétine indique au cerveau en fait une taille identique des lignes horizontales, mais le cerveau ajuste, par erreur, là, cette fois-ci, en disant non, ce ne sont pas les mêmes tailles, parce qu'il y a une perspective en 3D. Donc vous voyez, là, on met en doute la théorie simplement simpliste que la rétine envoie un message tout à fait objectif au cerveau et que le cerveau ne fait rien. Le cerveau a développé des mécanismes au cours de notre vie d'adaptation de système 3D et c'est comme ça qu'on peut se tromper. Par exemple, il y a d'autres expériences. Si on élève par exemple des chatons dans un environnement qui ne contient que des lignes verticales, le chaton sera incapable de descendre les escaliers parce qu'il n'aura pas intégré le système les lignes horizontales. Donc il ne verra pas les lignes horizontales, il tombera dans les escaliers. C'est des exemples comme ça. Donc c'est important, quand vous avez des enfants, de les stimuler de façon visuelle avec des objets un peu compliqués parce que ça développe la perception visuelle. Pareil, la verticalité. L'œil bouge plus vite horizontalement que verticalement, ce qui fait qu'on a l'impression que cette ligne-là est plus petite que celle-là. N'est-ce pas? En réalité, c'est faux. Vous voyez, je l'ai remis, hein, je l'ai fait pivoter. Là, j'ai fait cette construction, vous voyez. Je fais pivoter la ligne, on a la même distance. Voilà, vous voyez. Et donc, c'est pour dire que, uniquement parce que notre œil bouge plus vite horizontalement que verticalement. Alors ça, c'est peut-être une évolution, je me projette peut-être un petit peu, mais... finalement, on a vécu pendant des millénaires sous l'ère des chasseurs-cueilleurs, et évidemment, il était sans doute plus intéressant pour l'homme de développer les choses horizontalement quand il cherchait des baies ou quand il essayait d'attraper des animaux, à l'époque où il ne pouvait pas évidemment tirer sur des animaux parce qu'il n'avait pas de fusil en l'air. Donc il a peut-être développé, il a peut-être avantagé un système de lecture horizontale qu'un système de lecture verticale. Là, pareil, pour la perception de la taille des objets, le cerveau intègre un contexte. Par exemple, le cerveau place nos perceptions dans un contexte de comparaison. Ce rond-là est de la même taille que l'autre. Vous voyez la preuve? Mais notre cerveau analyse cela comme un cercle rouge beaucoup plus gros que les petits cercles bleus, alors qu'au contraire, là, le cercle rouge est beaucoup plus petit que les cercles bleus. Donc il considère que ce cercle-là est sans doute plus gros que celui-ci. Et on en a cette impression. Vous voyez, le cerveau, on est tous bernés par notre cerveau ce soir. Vous me direz, on est peut-être fatigué, mais non. Voyez, il a la même taille. Donc il y a un traitement cognitif des informations visuelles qui est très très important, dont on ne se rend pas compte tous les jours parce qu'on vit, on est habitué à notre monde, mais on peut très facilement le mettre en doute. Et il y a des expériences comme ça de personnes qui paraissent beaucoup plus grosses que d'autres dans des pièces où la géométrie n'est pas rectangulaire, mais en fait est en fuite. Mais on fait croire aux spectateurs que la géométrie est rectangulaire, et ça fait penser, et le cerveau intègre cela comme quelque chose de rectangulaire, alors qu'en fait c'est en fuite, et ça fait voir des gens plus gros, voilà, par exemple. Il y a aussi un phénomène de complétion modale. Là, j'ai besoin de vous expliquer un peu ce que c'est pour les exemples. En fait, le monde de l'environnement est perçu comme complet, alors qu'en fait, c'est tout à fait faux. Enfin, c'est tout à fait vrai, mais parce que ça relève d'interprétation liée à notre connaissance du monde, à des phénomènes cognitifs. Quand je vois quelqu'un dans la scène, s'il y a quelqu'un devant lui, mon cerveau reconstruit la personne derrière, en imagination. Vous voyez ? Et je me doute bien qu'il y a quelqu'un derrière. Donc il y a une perception d'une structure en entier, alors qu'on ne perçoit pourtant que des fragments. Donc on arrive à reconstruire les choses de façon complètement inconsciente. Les objets partiellement masqués par d'autres ne sont pas vus comme des fragments, encore une fois, mais comme des groupes d'objets arrangés. Et là, je vais vous montrer tout à l'heure des petites illusions comme ça. Et si les contours s'épousent bien avec une certaine géométrie, le cerveau déduit que l'un cache l'autre. Et on déduit la partie cachée, malgré nous, de façon complètement inconsciente. Donc la perception visuelle inclut aussi des mécanismes qui ne sont pas sous-tendus par la vision, puisque je suis capable d'imaginer un objet derrière un autre, alors que je ne le vois pas puisqu'il est caché. Un exemple tout simple, quand on regarde cette image-là, on ne voit rien. Il y a des fragments de lettres, mais on ne voit rien. Par contre, s'il y a une tache d'encre qui coule, là, voyez, entre les fragments, on arrive à lire des B. Vous voyez les B ? Hein ? Là, on ne voit rien. Pourquoi ? Parce que, justement, il n'y a rien qui masque. Donc, notre cerveau ne fait pas ce travail. Alors que si on met de la couleur, notre cerveau qui a acquis depuis l'enfance, depuis le développement visuel, le fait que derrière quelque chose se cache quelque chose d'autre, et on est capable de l'interpréter, le cerveau reconstruit d'emblée très facilement les lettres B, qui sont là aussi, hein, mais qu'on ne voit pas. Par exemple, là aussi, on imagine une cloche, on imagine très bien la cloche, et on la voit et on l'identifie clairement derrière cette ligne grise. Là, pareil, on a identifié les lettres B derrière les taches, mais pas là. Là, c'est pareil, c'est un triangle de Kanizsa. Le cerveau reconstruit finalement ce qui pourrait être logique. Il n'y a pas de triangle de dessiné là. Mais néanmoins, non, il n'y a aucun triangle de dessiné. Ce sont des formes, vous voyez, je vous assure. Vous voyez, il y a les angles du triangle qui sont suspects. Et on devine un triangle qui est devant en fait les formes géométriques. Et il y a aussi un autre phénomène, c'est que le triangle, quand vous le regardez bien, il paraît beaucoup plus blanc que le reste. Il n'est pas plus blanc que le reste. J'ai rien fait de plus. Notre cerveau, c'est notre cerveau qui voit plus de blanc alors qu'il n'y en a pas plus. Un exemple. Donc vous voyez, là, on est trompé par deux fois. On voit un triangle alors qu'il n'y en a pas, et on voit plus de blanc que ça pourrait intéresser les vendeurs de lessive. Alors pareil, il y a des effets d'angle dans les phénomènes de perception visuelle, dans les phénomènes d'illusion. Les lignes verticales apparaissent distordues en raison de la présence, en fait, de segments formant des angles droits avec celles-ci, vous voyez ? Elles n'ont pas l'air parallèles, ces lignes-là, vous êtes d'accord ? Les lignes verticales n'ont pas du tout l'air parallèles, vous voyez, celles-là, elles ont l'air de converger vers un point en bas, comme celle-ci. Donc il y a une impression de distance entre les droites qui n'est pas constante, et pourtant, là c'est dommage, ça marche pas, mais ces lignes-là, je vous assure, sont parallèles. Les lignes verticales sont parallèles. Notre cerveau a intégré et se trompe et interprète ça comme des lignes étant parallèles. Pareil, il y a des mécanismes de constance perceptive des couleurs. Un objet rouge, une boule de billard posée sur une table, nous paraîtra rouge, alors que l'éclairage de cette boule peut être différent. Ça peut venir d'un point lumineux particulier, mais pourtant l'objet nous paraît uniformément rouge. Pourquoi ? Parce que depuis l'enfance, depuis le développement visuel, un objet globalement est uniformément de la même couleur. Donc on l'a intégré d'un point de vue cognitif. Et là, par exemple, la couleur rouge est la même partout. alors qu'ici, elle paraît beaucoup plus foncée que là. Et ça, ça intègre la notion de champ récepteur et de contraste à l'intérieur d'un champ récepteur. Un champ récepteur, c'est une zone, c'est une zone détectée par un neurone. C'est-à-dire le neurone est stimulé dans une zone particulière de notre entourage, où un champ récepteur, c'est aussi les différents neurones qui arrivent sur une même cellule. On parle de champ récepteur. Et là, on travaille par contraste. En fait, globalement, le contraste entre le blanc et le rouge, notre cerveau l'égalise en disant que c'est le même que le contraste entre le noir et le rouge, là. Donc, comme là, c'est très clair, là, le rouge paraît plus clair, alors que là, comme le noir est sombre, le rouge paraîtra plus sombre. Vous voyez, il y a une égalisation comme ça, et ça nous paraît plus sombre, le rouge, alors qu'en réalité, il est tout à fait de la même couleur. Vous voyez, c'est aussi un phénomène d'illusion, hein, qui est important. Et il y a, par exemple, celui-ci aussi, ce phénomène d'illusion, vous voyez, le rouge là paraît plus sombre que là, alors qu'il est de la même couleur, hein. C'est moi qui l'ai fait sur PowerPoint, à moins que mon ordinateur déconne, mais voilà, il est tout à fait, il est de la même couleur. Et il y a aussi des phénomènes d'illusion qui sont très intéressants. Une couleur ne bouge pas, mais on peut avoir l'illusion justement du mouvement, et on ne sait pas l'expliquer précisément. Il y a des phénomènes cognitifs sous-jacents, encore une fois, c'est pas lié à la rétine, mais quand on regarde le centre du dessin, on a l'impression que ça coule. Il y a de l'eau qui coule, et en fait, vous voyez, l'observation de couleur peut entraîner l'activation au niveau du cortex visuel de cellules sensibles au mouvement. Et on peut voir comme ça des choses qui bougent alors que ça ne bouge absolument pas. Voilà. Alors finalement, la perception du mouvement, elle est définie par les mouvements de l'objet dans l'environnement, des mouvements de l'image sur la rétine et nos propres mouvements. Et il y a des neurones répondant en fait sélectivement à une direction du mouvement aussi au niveau du cortex visuel. Alors là, c'est la bistabilité, je ne vous en parlerai pas. Là aussi, vous avez tous vu, par exemple, des formes, des dessins. Un dessin qui représente Sigmund Freud avec sa barbe et un autre dessin qui est un nu, en fait, une femme nue. Voilà. Et c'est un phénomène de bistabilité. Globalement, quand le cerveau reconnaît une image, il a tendance à y rester. Parce que voilà, on reconnaît quelqu'un dans la rue, on reste sur cette personne. Mais par contre, quand on passe d'une image à l'autre, quand on dit à la personne, vous voyez, ce dessin de Sigmund Freud, qui représente Sigmund Freud, c'est en fait une femme, vous le voyez, après on n'arrive pas à se fixer sur l'un ou sur l'autre, on voit les deux. Vous l'avez tous ressenti, ce phénomène. On voit les deux, ça s'appelle le phénomène de bistabilité. Le cerveau, une fois qu'il a reconnu les deux images, a du mal à rester sur une seule image et à s'y maintenir. Alors là, je vais vous parler pendant deux diapos de la perception et les maladies. Alors, il y a des maladies, évidemment, qui entraînent des anomalies de la vision, comme les dystrophies des cônes, de la vision des couleurs, par exemple. Et il y a une maladie dont vous avez tous entendu parler, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est une angiographie que j'ai réalisée chez un patient, se traduit par une atteinte de la macula, de la zone, de la fovea, de la zone centrale de la rétine, avec l'apparition de néovaisseaux. Vous voyez ces néovaisseaux ici, ça c'est une angiographie au verre d'indocyanine. On voit les néovaisseaux, vous voyez qu'ils font un peu comme un réseau sous la rétine. Et ce réseau va entraîner parfois des hémorragies, parfois l'apparition, l'accumulation de fluide sous la rétine, avec un œdème rétinien, et ça va entraîner une baisse de vision. Et les patients se plaignent dans ce contexte, on parle de scotome central, ils perdent la vision centrale à cause de cette maladie. Donc c'est très embêtant, parce que quand on n'a pas la vision centrale, on ne peut plus signer ses chèques, on ne peut plus lire, par exemple. Donc c'est très, très embêtant. Donc c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il y a globalement 1 million de personnes en France qui souffrent de déformes sévères ou des formes précoces de la maladie. Donc c'est quand même très, très fréquent. Et ça donne ce genre d'image. Vous voyez, la personne à Venise ne voit pas les gondoles. Et la dégénérescence maculaire liée à l'âge, par le fait que la rétine neurosensorielle est infiltrée par du fluide, par les néovaisseaux qui ont tendance à fuir sous la rétine. La rétine, cet organe extrêmement structuré que je vous ai montré tout à l'heure, avec les différentes couches cellulaires, avec les jonctions cellulaires, avec les noyaux des différentes cellules, et bien cet organe va être complètement déstructuré par la présence de liquide intra-rétinien, et ça va entraîner un phénomène qu'on appelle les métamorphopsies. La rétine étant déstructurée, va traiter l'information de façon erronée, comme un miroir déformant en quelque sorte, et va entraîner, les patients vont se plaindre de métamorphopsie. Ils verront, en plus d'un scotome, ils verront déformé. Donc c'est la DMLA. J'ai cité qu'un exemple de maladie, il y en a plein d'autres, des maladies rétiniennes qui peuvent donner des pathologies, évidemment, de la vision. Et il y a aussi, je vous ai parlé tout à l'heure des voies visuelles, et les voies visuelles, c'est finalement un circuit électrique qui va parvenir au niveau du cortex visuel en partant de la rétine, de l'œil, de la rétine, des voies optiques. Et ce circuit électrique, selon les lésions qu'on peut y observer, par exemple des tumeurs, les lésions qu'on peut observer, peut donner des anomalies du champ visuel. Par exemple, si on coupe un nerf optique, ce que je ne vous conseille pas, si le patient a un traumatisme oculaire et ça sectionne le nerf optique, ça peut arriver d'un point de vue traumatique, et bien évidemment, le patient perd la vision d'un œil. Là, vous avez la vision vue par un œil et l'autre. Hein, vous voyez là l'œil gauche et l'œil droit. Si, par contre, c'est coupé au niveau du chiasme optique, ça peut donner des anomalies un peu particulières. Si c'est coupé au niveau du chiasme optique ici, ça donne des anomalies, des hémianopsies bitemporales, par exemple. Les patients voient plus sur les côtés. Ça, c'est le cas, par exemple, chez les patients qui ont un adénome de l'hypophyse, qui est une pathologie relativement fréquente. Et d'autres anomalies, selon les différentes zones du circuit visuel, donnent des anomalies du champ visuel tout à fait reproductibles. Et en faisant un champ visuel au patient, on peut parfois localiser la lésion sur le champ visuel. Et évidemment, une imagerie cérébrale permettra de voir les lésions de façon plus directe. Voilà pour ce qui était de la perception visuelle et de ce que je pouvais en dire ce soir pour le temps qui m'était imparti. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ?
Merci. Oui. Merci pour ce voyage que vous nous avez fait faire. Peut-être à une certaine vitesse, mais je vois que certains sont essoufflés, mais ils peuvent maintenant reprendre leur souffle et poser toutes les questions qu'ils souhaitent, bien entendu.
Bonsoir. Voilà, disons que j'ai eu un accident de voiture et j'ai eu mon nerf optique paralysé. Disons que je voyais constamment double et j'avais perdu ma vision en 3D. Et j'ai été opérée et j'ai revu en 3D et ça a été comme un renouveau, comme si j'étais dans un nouveau monde. Et j'aurais voulu savoir quel genre de phénomène ça a entraîné, en fait.
Alors là, c'est un peu compliqué de parler sur un individu, enfin une patiente qu'on n'a pas examinée, mais finalement, un traumatisme oculaire. Je vous ai parlé du circuit neuronal, du circuit électrique, en fait, qui conduit l'information au cerveau. Mais l'œil, il bouge. Il y a des mouvements de convergence dans la vision. Et les deux yeux bougent de la même façon, en fait, pour amener l'image sur la fovéa. Ça s'appelle des phénomènes de concordance rétinienne, en quelque sorte. Globalement, quand on regarde quelqu'un précisément, les deux yeux se focalisent sur cette personne et l'image dans chaque œil est portée sur la fovéa, sur le centre de la rétine. Et quand on a un traumatisme, par exemple, il y a un accident de la route ou je ne sais quoi, ça peut parfois détériorer un muscle d'un des yeux par une fracture, par exemple, qui peut incarcérer un muscle. Donc il y a un muscle qui peut être affaibli et du coup les deux yeux ne bougent pas de la même façon. Ce qui fait qu'un œil, quand vous regardez une personne, un œil fixera bien et l'autre qui est affaibli fixera moins bien. Donc au niveau de l'œil, les deux images vont arriver à des endroits différents et pas par exemple au centre de la rétine. Et arrivant dans des endroits différents, le cerveau va avoir comme information que telle personne est à tel endroit dans un œil alors qu'elle est à tel autre dans l'autre œil. Ce qui fait que vous aurez la sensation de voir double. Et après, évidemment, avec la guérison des séquelles, enfin avec l'évolution, les deux muscles vont retravailler de la même les muscles vont retravailler de la même façon et finiront par récupérer. Oui, mais justement. Parce que parfois, oui, voilà, si le traumatisme est trop important, parfois on est obligé d'opérer les patients pour affaiblir un peu un muscle, par exemple, de façon à ce que les deux muscles, dans une même situation, se contractent de la même façon. Donc, on affaiblit un muscle ou on renforce un autre de façon à rendre un peu cette possibilité de convergence. Oui, c'est ça. En les rétrécissant, ça les renforce parce qu'on rapproche le muscle par rapport au centre. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, j'en ai très peu parlé parce qu'on pourrait vraiment en faire une conférence entière. Alors là, c'est une question qui déborde un peu du champ ophtalmologique, mais je sais qu'au CHU, il y a une plateforme d'imagerie très, très précise, hein, donc on peut tout à fait, à mon avis, faire de l'IRM de diffusion. La seule chose, c'est que moi, étant ophtalmo, je me centralise plutôt sur l'œil, et pour les champs visuels que je vous ai montrés à la fin, quand on détecte quelque chose, en général, on passe à l'imagerie cérébrale, et puis après, les choses sont prises en main par les neurologues ou, par exemple, par les neurochirurgiens. Mais globalement, l'IRM de diffusion peut être utilisé à Poitiers, oui.
La deuxième partie de la question, c'est est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur, parce que c'est complètement expérimental, sur justement ce qu'on peut trouver par rapport depuis 10 ans sur cette partie de sensation et de différenciation entre un individu et le corroborer à l'imagerie médicale.
Oui, tout à fait. Par exemple, on peut, par des études radiologiques type IRM ou imagerie fonctionnelle, PET scan par exemple, on peut tout à fait réussir à suivre d'un stimulus visuel, à suivre ses projections et les différentes voies qu'il emprunte jusqu'au cortex. Mais je veux dire, moi, que d'un point de vue ophtalmologique, les choses qui me semblent les plus intéressantes d'un point de vue ophtalmologique, c'est l'imagerie de la rétine. Et on a actuellement des appareils qui s'appellent par exemple l'OCT, la tomographie en cohérence optique, qui permettent d'avoir quelques microns de précision, de définition sur la rétine qu'on analyse, et de voir par exemple des couches rétiniennes de 200 microns, et de voir des petites anomalies comme ça. On peut tout à fait analyser morphologiquement la rétine grâce à l'OCT, par exemple. On peut analyser la rétine grâce à l'angiographie, la fluorescine, à l'imagerie qu'on a. On peut aussi analyser le circuit de l'œil au cerveau par exemple, les potentiels évoqués visuels, donc par aussi de l'électrophysiologie. Donc il y a tout un... On dispose d'un panel d'appareils ou d'imagerie, si je puis dire, qui permettent d'analyser d'une part la fonctionnalité du circuit, d'autre part la morphologie. Oui.
Ce serait une question sur la formation de l'œil chez l'embryon. Il me semble qu'elle est assez rapide. Et un prématuré voit-il aussi bien, c'est-à-dire que, l'apparition de la vue, en fait, chez les prématurés?
Alors, l'œil est une émanation du cerveau, en fait. L'œil et le cerveau viennent de l'ectoderme, du neuroectoderme notamment. Et l'œil se différencie relativement tôt avec l'apparition du cristallin, puis de la rétine. Mais globalement, les nourrissons voient très mal. On considère qu'ils voient 2, 3 dixièmes. Ils voient flou et mal parce que l'œil du nouveau-né est hypermétrope. Donc il voit très très mal. Il reconnaît un petit peu les visages, mais il pourra vraiment mettre un nom sur les visages progressivement. Il reconnaît beaucoup les odeurs, justement. Parce qu'au moment de la naissance, l'odorat est quasiment aussi développé que la vision. Donc il reconnaît beaucoup les choses comme ça, il reconnaît l'odeur maternelle. Mais les nouveau-nés, et notamment les prématurés, voient très très mal. On a beaucoup de mal, évidemment, à évaluer la vision, l'acuité visuelle d'un prématuré, parce qu'il faut un processus, volontaire. On demande aux enfants de lire des lettres sur le tableau, mais en leur faisant bouger des objets devant les yeux, par exemple, on peut avoir une idée quand même de l'acuité visuelle, et on sait qu'elle est très mauvaise.
Oui, donc moi j'ai une question. Je voudrais savoir, est-ce que du stress ou une extrême tension peut développer une photosensibilité ou une grosse, grosse sensibilité à la lumière du jour?
A priori, non. Hein, pas de... Il y a des pathologies rétiniennes qui ont été rapportées chez des individus un peu stressés, comme les chorio-rétinites séro-centrales. Mais le stress en lui-même n'entraîne pas, a priori, de gènes particulières. Mais vous savez que certaines conditions de la vie font que, je ne sais pas, quand on est stressé, on lit beaucoup plus vite parce qu'on doit faire on doit préparer quelque chose, on lit beaucoup plus vite que quand on est chez soi, relax, en train de lire un bouquin, par exemple. Donc il y a des phénomènes quand même qui font que on a des capacités de perception visuelle plus ou moins développées.
Et ce qu'on appelle l'attention, ça peut avoir de l'effet sur la photosensibilité
artérielle. L'attention artérielle ?
Oui, oui, oui.
A priori, non.
Merci.
L'hypertension artérielle. Là, c'est différent. Il y a l'hypertension artérielle et il y a la tension oculaire. L'hypertonie oculaire, on parle d'hypertonie oculaire, peut entraîner à terme des maladies comme par exemple le glaucome. Donc ça, c'est autre chose.
Oui, donc je me demandais quels sont les mécanismes mis en place lors de la perception, par exemple, d'une couleur. On parle souvent, enfin, beaucoup de personnes disent que voir du bleu, ça les apaise. Est-ce que physiologiquement, il y a des études qui ont mis en évidence les mécanismes mis en place?
Alors là, c'est difficile. Ça fait appel à peu à des mécanismes cognitifs. Peut-être que ça les apaise parce que dans leur chambre d'enfant, des garçons, il y avait du bleu sur les tapisseries et dans les chambres des filles, c'était rose. Ça, c'est des mécanismes cognitifs, par exemple. Mais c'est vrai que sans doute, il y a des couleurs qui nous apaisent plus que d'autres. Et ça, on le sait. Hein, il y a, par exemple, c'est développé de plus en plus dans des entreprises au Japon. Ils mettent des cerisiers qui fleurissent roses et tout. Donc, il y a des couleurs qui apaisent. Mais c'est, à mon avis, des phénomènes assez complexes qui intègrent beaucoup des mécanismes beaucoup plus vastes que la perception visuelle elle-même.
Vous nous avez dit qu'il y avait 1 million à peu près de fibres nerveuses qui sortaient de la rétine, à comparer à je ne sais plus combien, 100 000 pour le nerf acoustique, un truc comme ça, et qu'il y avait en gros 5 milliards de neurones impliqués dans le cortex visuel.
Alors impliqués directement ou indirectement ?
Directement ou indirectement, c'est-à-dire en dehors du cortex visuel aussi.
Voilà, en fait, pas nécessairement en dehors, mais j'ai parlé de l'aire visuelle primaire qui reçoit toutes les informations. C'est un peu la zone qui reçoit toutes les informations. Et après, ces informations-là vont être dispatchées dans différentes zones du cerveau, dorsale ou ventrale, pour permettre une analyse plus fine. Les mouvements, les contrastes un peu plus fins, les couleurs plus fines. Donc, c'est des différentes synapses d'une zone du cortex visuel primaire à des zones, disons, secondaires.
Et alors, combien de synapses ?
Ah ben, c'est difficile. Je suis incapable de vous répondre.
Ordre de grandeur. Il y en a 10 000 par neurone, comme oui, classiquement global,
J'ai dit 5 milliards de neurones. Donc 5 milliards de neurones, c'est au moins 5 milliards de synapses, puisque les neurones sont connectés entre eux.
Qu'est-ce que vous apportent les théories plus de spéculation par rapport à l'ophtalmologie?
Pas grand chose, mais il fallait que je parle dans le contexte de la perception visuelle. Je ne pouvais pas occulter ce qui était extra-ophtalmologique, mais qui joue un rôle si important dans la perception visuelle. Je vous l'ai montré par les phénomènes d'illusion, par exemple. Mais l'ophtalmologie est aussi très très complexe. Le message visuel, il est en quelque sorte, il commence à être décodé. Il y a des notions de contraste, de couleur, qui commence à être décodé dès la perception visuelle par les photorécepteurs et les mécanismes qui sont sous-jacents de transduction visuelle. Donc ça joue un rôle aussi très important. Mais dans un contexte de présentation sur les perceptions visuelles, il faut évidemment parler d'un ensemble. Je ne pouvais pas parler, par exemple, pendant une heure du cristallin, des fonctions du cristallin, de la structure de la cornée, de la structure précise de la rétine. C'est des choses un peu trop complexes et qui seraient un peu satellites, je dirais, d'une présentation sur la perception visuelle en général.
Oui, puis c'est beaucoup moins amusant que l'aspect cognitif. Par exemple, les illusions d'optique. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Vous expliquiez que lorsqu'on sait que dans cette image bien connue, où on voit effectivement Freud de profil et cette femme nue, une fois qu'on sait qu'il y a les deux images, eh bien, on peut alternativement discerner l'une ou l'autre, volontairement d'ailleurs. Oui. Et c'est vrai que sur Internet circule cette image de la danseuse que l'on peut voir tourner dans un sens et dans l'autre. Et bien que l'on sache effectivement que l'on peut la voir tourner dans les deux sens, j'ai personnellement réussi à la voir tourner dans les deux sens, je ne maîtrise pas. Je vois plutôt un sens de façon privilégiée. Pourquoi est-ce que tout en sachant qu'on peut avoir dans les deux sens, on n'arrive pas à décider vraiment?
Oui, ça, c'est le phénomène de bistabilité, qui est défini par le fait que quand on arrive à voir les deux choses, on a peut-être un choix préférentiel d'interprétation, mais le cerveau, finalement, ne peut pas vous empêcher de voir un sens plutôt que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où il a découvert les deux, il passe de l'un à l'autre en privilégiant l'histoire de Sigmund Freud. On voit où le personnage est, ou la femme nue, en privilégiant une ou l'autre, mais il y a un passage de l'un à l'autre, comme s'il se disait, attention, il y a autre chose. Mais l'expliquer, ce sont des théories, et on a encore beaucoup de mal. On pourra toujours avoir de l'imagerie fonctionnelle très précise. Ce sont des phénomènes quand même qui impliquent des réseaux de neurones très, très particuliers, et qu'il est, à mon avis, difficile d'analyser finement, parce qu'il y a des processus justement complexes qui ne font pas rentrer en ligne de compte une seule synapse, mais plusieurs réseaux. Et puis qui peuvent être différents d'un patient à l'autre, oui. D'une personne à l'autre.
Concernant cette image de la danseuse qui tourne, on voit sur Internet, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous allez peut-être nous le dire, que ça dépendrait de la partie du cerveau qu'on utilise.
Peut-être, chez les droitiers ou chez les gauchers, possible. Mais j'ai pas de dogme à annoncer à ce sujet.
Ça va peut-être compléter la question précédente. Pour les hommes qui ont fait leur service militaire, j'en faisais partie, on avait un œil directeur.
Oui, tout à fait, pour viser.
Et alors, c'est quoi? Alors, c'est la même chose, c'est que... Alors, on le garde toujours?
Non, je ne pense pas. On a tendance à le garder. Par exemple, pour tirer à la carabine, ouais, vous auriez beaucoup de mal à tirer en visant de l'œil gauche, alors que vous avez un œil directeur qui vise à droite. C'est l'œil qui va se focaliser le plus vite sur l'objet à regarder et qui apporte l'information la plus importante. Mais quand on a un œil directeur, on a tendance à le garder. Tout comme si on est droitier, on a tendance à rester droitier, sauf évidemment les anciennes histoires où les gauchers, on les empêchait d'écrire à gauche. Et pareil au service militaire, à une époque, on vous faisait faire un premier pas. Et à partir de là, on pouvait dire déduire si vous êtes gaucher ou pas. Donc c'est des phénomènes encore une fois qui sont expliqués, mais qui sont pas. On a du mal à changer, à passer de l'un à l'autre. Il y a évidemment les ambidextres, mais.
Alors toujours dans ces domaines d'illusion, vous savez, il y a des dessins où il y a deux images superposées et on les voit soit en relief, soit en creux. Alors. Je sais que j'arrive à le voir d'un côté, j'arrive jamais à le voir de l'autre. Alors c'est quoi là aussi
des... Là c'est des phénomènes cognitifs aussi qui sont complexes et qui passent outre les phénomènes simplement de récepteurs et de perception visuelle. Il y a des phénomènes de reconnaissance, de mémoire, des phénomènes d'un aspect déductif des choses qui fait que vous voyez dans un sens plus que dans l'autre. Et ça c'est variable évidemment d'un individu à l'autre, et heureusement.
Et alors, dernière question, avec certaines télévisions, actuellement télévision 3D, on voit des films en 3D, alors ça c'est tout à fait normal, on a des lunettes,
Il y a des télévisions 3D sans lunettes, ça existe.
Je n'en ai pas encore vu, mais justement, ma question complémentaire, c'est que quand on regarde une image qui n'est pas en 3D, avec les lunettes, au bout d'un moment, on voit l'image en 3D. Alors, il paraît que c'est le cerveau qui...
Avec les lunettes 3D ou...
Avec les lunettes 3D, on regarde une image faite par moi, une photo faite par moi, puis au bout d'un moment, je la vois en relief. Et alors il paraît que c'est le cerveau qui fait le boulot, c'est vrai?
C'est peut-être le cerveau qui corrige. Parce qu'en fait, une image 3D, comment faire une image 3D? On fait ce qu'on appelle la stéréoscopie. C'est-à-dire que les lunettes 3D, c'est souvent des lunettes qui sont un peu prismées, qui créent une image, et qui déplacent un petit peu l'image d'un côté et de l'autre. Et évidemment, en ayant une image un peu déplacée de l'autre, ça nous donne une image en 3D. notre œil droit voit une image un peu différente de l'œil gauche. Si vous clignez d'un œil à l'autre en me regardant, vous me verrez me décaler comme ça. Et cette image, vous voyez, en clignant d'un œil à l'autre, moi je ne vous regarde pas, mesdames. Et donc, en pratique, vous voyez, il y a une image et l'autre. Elles sont très, 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 très proches. Et notre cerveau fait le travail pour les fusionner et donner une image en 3D. Et donc, pareil, si vous mettez des lunettes qui permettent de voir en 3D, vous êtes gêné au début, et le cerveau peut corriger ce phénomène comme il le fait, mais à l'inverse, quand on voit en 3D avec les deux yeux. Et pareil, quand on perd la vision d'un côté, on perd la vision des profondeurs. La vision en 3D, puisqu'on ne voit plus les patients, les personnes qu'en 2D, puisqu'il n'y a pas les deux images un peu qui se superposent. Et c'est pour ça que les patients qui ont perdu la vision, ils sont très gênés pour conduire, pour évaluer les distances, par exemple. Et ça, c'est un phénomène assez connu.
Et une petite dernière, avec les lunettes, habituellement, on a des verres progressifs, donc pour voir loin, pour voir près. Et il paraît qu'il y a des lentilles aussi progressives. Alors, comment ça marche, ça ?
Tout à fait. Alors, les verres progressifs, déjà, comment ça marche ? Pour les verres progressifs, on passe d'une vision lointaine à une vision de près. Et il y a un phénomène, c'est progressif, simplement sur le verre. Le verre est usiné pour ça, avec une correction de plus en plus forte en descendant. Et là aussi, le cerveau intègre ce mécanisme et corrige lui-même. Mais il y a des patients qui ont du mal à supporter les verres progressifs parce que leur cerveau n'arrive pas à corriger ce phénomène. Et du coup, il y a des patients qui ne peuvent pas supporter les verres progressifs et qui portent des verres double foyer, par exemple, ou des verres pour le voir de loin, de près. Donc c'est un phénomène aussi cognitif, enfin intégré par les processus neuronaux. Et les lentilles 3D, il y a des lentilles 3D qui existent directement, mais il y a aussi parfois, pas les lentilles 3D, les lentilles progressives, mais parfois simplement, on avantage l'œil directeur pour la vision de loin, et l'œil de près, et l'œil non directeur pour la vision de près. Et les patients arrivent à avoir une bascule visuelle, ce qui fait que de loin, ils sont peu gênés, et de près, ils sont peu gênés aussi. Donc, il y a différents mécanismes possibles. Tout ça pour dire qu'on est quand même très, très adaptable à notre environnement et à ce qu'on se met et ce qu'on peut mettre entre nous et notre environnement.
Oui, bon.
Mais on ressent beaucoup de choses, voilà. Oui, et on ne sait pas l'expliquer précisément. Oui, sans aucun bateau, sans aucune vague. Oui, parce que ça suscite chez vous peut-être la mémoire à long terme ou des sensations, des perceptions, des sensations, je dirais, unitaires, quoi, mais qui débouchent sur des sensations beaucoup plus précises. Oui, ça. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais c'est la symbolique. Il y a différents niveaux d'interprétation et de perception visuelle. Il y a ce qu'on voit, mais il y a aussi le symbole. Le symbole qui nous fait appel à des notions d'éthique, à des notions de mémoire, à des notions de valeur. Et le symbole, c'est quelque chose de très simple, mais qui renvoie à des choses parfois complexes.
2 ou 3 minutes, d'un seul coup, vous commencez à avoir les choses en 3 dimensions. Alors que vous les regardez, et c'est de la peur, vous avez beau mesurer, faire tout ce que vous voulez, il y a 2 dimensions, et au bout de 2 minutes, vous êtes dans la 3D, et vous ne pouvez plus arracher l'image.
Vous avez qu'une image, c'est pas 2 images, quoi.
Ah non, 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 vous avez une seule image, et il n'y a pas de lunettes, rien de tout.
Il y a une question dans le fond.
Oui. Oui, bonsoir. J'ai une question pour vous qui êtes ophtalmo. Je voulais savoir, avec les nouvelles technologies, le fait qu'on reste plus longtemps devant les écrans, est-ce que ça a développé des nouvelles maladies ou ça en a augmenté ?
Je pense que ça... Enfin, il faut pas jeter l'anathème sur les nouvelles technologies, mais la question est très judicieuse parce que, pour moi, ça me renvoie, par exemple, au phénomène d'enfermement là, qui a été décrit chez les Asiatiques, qui travaillent beaucoup sur écran, qui jouent beaucoup sur les ordinateurs. Il y a des gens comme ça qui deviennent de plus en plus autistes et qui s'enferment qui sont capables de rester des mois et des mois chez eux à jouer devant leur ordinateur. Voyez, donc je pense que les nouvelles technologies, elles sont censées nous ouvrir au monde, mais il faut garder à l'esprit que ça reste un outil pour pouvoir piocher un peu dans le monde. Mais il ne faut pas, et je pense que c'est une déviance progressive de notre société, il ne faut pas que la nouvelle technologie devienne un but, finalement. Et pouvoir, par exemple, rencontrer les uns et les autres uniquement sur un écran d'ordinateur, ben c'est quand même quelque chose d'assez pathologique quand on y pense. Et c'est, à mon avis, ça doit rester avant tout un objet, un outil qui permet d'aller vers l'autre ou de picorer dans le monde ou d'envisager le monde. Mais ça doit pas, et ça aboutit évidemment à des déviances qui sont bien au-delà du sujet de ce soir. Hein.
En fait, je parlais surtout par rapport aux nouvelles technologies, de la vitesse de l'image, qui a énormément changé.
Oui, on est submergé par les images. Il n'y a qu'à voir les pages internet qu'on ouvre maintenant et les pages qu'on ouvrait dans les années 90 ou 80. Maintenant, vous ouvrez une page internet sur un site pour aller chercher un truc, une inscription, et vous avez plein d'informations, et finalement, on arrive à s'y retrouver. Je ne suis pas persuadé qu'en mettant ces pages Internet il y a 10 ans, on a, je veux dire par là, développé des processus cognitifs qui font qu'on s'adapte justement à une image de plus en plus complexe.
Enfin, je parlais surtout de la vitesse par rapport aux jeux vidéo, par exemple. Je m'en rappelle les premières consoles, quand elles sont arrivées, et on le voit encore aujourd'hui... Il y a des précautions. Voilà, on dit que ça peut être dangereux, ça peut provoquer.
Je pense qu'il y a il y a de plus en plus de définitions.
Des crises d'épilepsie, par exemple.
Il y a de plus en plus de définitions dans les images, et c'est de plus en plus proche du réel aussi. Donc ça entraîne des comportements déviants. Après les crises d'épilepsie, on sait que les patients qui sont sujets à l'épilepsie, on peut développer des crises d'épilepsie ou réveiller une zone épileptogène du cerveau en éclairant les patients avec une certaine fréquence. Et ça, on l'a vu parce que très fréquemment, il y a une anecdote, c'est que, vous savez, les arbres le long de la route, parfois on voit des platanes le long des routes, et les patients qui étaient épileptiques, quand ils passaient sur ces routes-là, enfin pas tous, hein, faut pas généraliser, mais quand ils passaient sur ces routes-là, il y avait la lumière qui stimulait leur rétine de façon, avec une certaine fréquence, puisque ces arbres étaient séparés les uns des autres à peu près avec la même distance. Et bien on a eu des patients qui développaient des crises d'épilepsie avec cette stimulation lumineuse. Donc une stimulation lumineuse avec une certaine fréquence peut entraîner tout à fait des crises d'épilepsie.
Est-ce qu'il existe l'équivalent des illusions d'optique dans le système auditif ?
Oui. Il y a des illusions auditives. Alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais je sais que ça existe. Il y a autre chose au niveau illusion et phénomène cognitif dans la perception visuelle. Par exemple, c'est quand vous regardez un film au cinéma. Quand vous regardez un film au cinéma ou quand vous me voyez parler, quand je parle, vous avez l'impression que le son vient de ma bouche. Finalement, parce que la vision, dans notre système, chez nous, les humains, la vision est prédominante comme signe, comme perception. Donc le cerveau intègre que ce qui vient de la vision est avant tout est plus vrai que ce qui vient de l'audition. Et on a tendance à croire, donc en me regardant, et c'est un phénomène cognitif que vous avez intégré sans vous en rendre compte, mais on a tendance à croire quand je parle que le son vient de ma bouche alors qu'il vient des enceintes. C'est un exemple. Au cinéma, c'est pareil. Quand on voit les acteurs parler sur les écrans, on a l'impression qu'ils parlent alors qu'en fait le son vient des enceintes à des endroits complètement différents. Bon, en général c'est stéréo, donc on a les sons qui viennent du même endroit. jusqu'à un certain niveau, on a l'impression que le son vient de leur bouche. Alors, ce n'est pas le cas.
C'est après, le rôle, non, l'importance de la vision sur, l'intellect pur, pas sur les.
Ah, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Je pense que l'intellect, il est lié à évidemment à ce qui est probablement une composante génétique, mais il est lié aussi, bien évidemment, de façon importante, de façon prégnante, à ce qu'on reçoit du monde. Quand on est enfant, on a des certaines stimulations auditives, sensitives, autres, comme la perception lumineuse, tout ça. Et toutes ces informations vont aboutir à du vécu, en quelque sorte, à des mises en situation particulières. Et l'intellect se fait progressivement avec ce genre de choses. Pour citer un exemple particulier, par exemple, on a souvent rapproché la myope. Il y a des études qui montrent que les patients myopes ont, entre guillemets, un QI un peu plus élevé que les autres patients. Les patients myopes, ce sont les patients qui voient bien de près, mais qui ne voient rien de loin. Alors les patients myopes actuellement ont de la chance, parce que s'ils avaient vécu au Moyen-Âge, ils auraient bien été gênés pour aller chercher la charrette ou pour se débrouiller dans la vie de tous les jours. Mais là, actuellement, la vie fait que les patients myopes semblent un peu plus intelligents, entre guillemets, plus avantagés. Et pourquoi ? Moi, je l'interprète plutôt différemment. Je me dis que finalement, les patients myopes, et c'est pour revenir sur l'idée d'intellect, les patients myopes, les patients qui voient mal de loin, ben finalement, quand ils sont jeunes, quand ils sont petits, ils ont tendance à avantager les phénomènes de qui font voir de près. Donc, qu'est-ce qu'ils avantagent ? Ils avantagent sans doute la lecture, parce que la lecture, on voit de près. Ils avantagent sans doute, voyez, ces activités, et ce sont évidemment des activités intellectuelles qu'ils avantagent par rapport à une vision de loin qui serait d'aller dans les champs ou voir les paysages. Et ce genre de nécessité développée par un sens qui est finalement assez défaillant fait que ça avantage la lecture et ça peut avantager à terme l'intellect, par exemple. Donc oui, sans doute que les perceptions avantagent l'intellect d'une façon ou d'une autre.
L'explication qui va à l'encontre de ce qu'on pouvait entendre à une certaine époque, si tu continues à lire, tu vas abîmer tes yeux.
Oui, je ne pense pas qu'on puisse abîmer les... Enfin, on peut abîmer les yeux si on lit 24 heures par jour, mais les yeux résistent bien.
Alors, pour ne pas abîmer les yeux, qu'est-ce qu'il faut faire pour les protéger, globalement ?
Pour protéger les yeux, je
pense... En termes de prévention.
Il faut vivre convenablement. Je veux dire... ça dépend du contexte, si je puis dire. Pour ne pas abîmer les yeux, il ne faut pas peut-être trop les solliciter. On sait, par exemple, que le travail sur écran, quand on travaille sur un ordinateur, et vous l'avez tous vécu, si vous travaillez le soir jusqu'à 3 heures du matin sur un écran d'ordinateur, vous avez les yeux rouges, les yeux piquent et tout. Parce que ça, c'est des faits de ça. Quand on travaille sur écran, on cligne moins des yeux. On cligne trois fois moins des yeux que dans la vie de tous les jours, par exemple. Et le fait de moins cligner des yeux, ben, le film lacrymal s'altère et ça finit par abîmer un petit peu la cornée. Donc ça donne les yeux rouges et ça donne mal aux yeux. Vous voyez, il faut vivre globalement, convenablement et s'arrêter quand on sent un peu de fatigue.
Et est-ce qu'il y a un sens à fermer les yeux pour faire travailler les autres sens ? Est-ce que c'est important de développer les autres sens?
Je pense que tous les sens sont importants.
Ouais, donc,
moi, je suis ophtalmo, je vais vous dire que la vision, c'est le plus important des sens, mais tous les sens sont importants. On sait que les postures yoga, il y a pas mal de postures yoga où on a les yeux fermés pour méditer. Donc tous les sens ont un rôle important et jouent un rôle très important. La race humaine a privilégié la vision, mais tous les sens restent importants. Quand on est chez le nouveau-né, l'odorat est finalement l'un des sens les plus importants. Le nouveau-né reconnaît sa mère par l'odorat initialement et pas par la vision.
Et alors, puisque tous les sens sont importants, est-ce qu'il y a justement des chances que l'on se donne pour, par exemple, mieux mémoriser ? C'est-à-dire que si on voit en même temps qu'on entend et en même temps qu'on sent quelque chose, c'est une scène qu'on n'oubliera jamais. Quoi.
Ça, c'est tout à fait vrai. Mais dans les phénomènes de mémoire, c'est très complexe encore. Par exemple, on sait que des individus retiennent mieux sur du visuel que sur de l'auditif. Et inversement pour d'autres, d'autres personnes retiennent mieux sur quelque chose d'entendu que de quelque chose de vu. Et par exemple, la mémoire aussi, vous savez bien, dans un contexte très particulier, par exemple très passionnel, ben, on retient beaucoup plus une scène passionnelle qu'une scène, je dirais, sans goût. Et c'est voilà. Donc la mémoire, elle n'est pas basée que sur les sens, elle est basée aussi sur le ressenti.
Alors admettons que j'obtiens l'information relativement certaine que ma mémoire visuelle est plus importante que ma mémoire auditive. Est-ce que vous pensez que j'ai intérêt à travailler sur ma mémoire auditive pour améliorer l'ensemble ?
C'est une question difficile à répondre. Ça dépend peut-être de l'âge et des capacités de la personne. Vous savez bien qu'il y a des personnes qui peuvent apprendre à jouer du piano très bien à l'âge de 50 ans et d'autres auront beaucoup de mal. Donc ça dépend aussi des capacités de la personne, je pense.
Ça rejoint un peu une question que vous avez déjà abordée, mais qui je crois est importante, celle de la plasticité de ce système. Ce système extrêmement complexe, mais qui est aussi relativement plastique, que ce soit physiologiquement ou pathologiquement.
Oui, tout à fait. Par exemple, dans ce qui est du système visuel, les cellules de la rétine ne se multiplient pas. Par exemple, donc c'est un système relativement fixe. C'est un peu comme une sculpture. Si vous cassez le bras de la sculpture, bon, le bras est par terre et ça ne change pas. Donc c'est un système qui, ce sont des cellules qui ne se multiplient pas. On dit qu'elles sont post-somatiques, elles se multiplient pas. Mais néanmoins, chez certains animaux, nous-mêmes, chez les hommes, on a ce qu'on appelle des cellules souches qui restent, qui sont localisées dans certaines zones de la rétine, qui ont une capacité de multiplication, de différenciation vers un type cellulaire ou un autre, mais très 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 limitée. Chez l'homme, c'est limité, ce qui fait qu'une lésion de la rétine est en général irréversible. Un décollement de rétine, il faut l'opérer rapidement, sinon les photorécepteurs qui dégénèrent, ben, ceux-là, on ne les récupère pas. Après, il y a des mécanismes qui font qu'un photorécepteur lésé, par le biais d'un champ récepteur dont je vous ai parlé, peut être remplacé par un autre. Mais globalement, il n'y a pas de régénération. Mais il y a des animaux, par exemple les batraciens, chez lesquels il y a une régénération des organes qui permet notamment à une rétine lésée d'être réparée. De même, il y a des tritons, par exemple, enfin des batraciens, chez qui, si on sectionne un membre, le membre entier va repousser. C'est un autre exemple de régénération. Donc, l'homme a quand même très peu de facultés de régénérer. Il a des facultés. Il peut travailler sur le circuit neuronal, utiliser des connexions qui existent déjà pour un peu agrandir le champ récepteur d'une zone qui est un peu lésée, mais il ne peut pas remplacer les choses. Mais il peut nous donner la sensation que les choses sont revenues à l'état antérieur.
En tout cas, pour ce qui concerne les cellules de la rétine, parce qu'il y a beaucoup de tissus, au contraire, qui se renouvellent.
Tout à fait, oui.
En ce qui concerne les couleurs, est-ce qu'il y a des personnes qui voient quatre couleurs ? Est-ce qu'il y a des peuples qui ne voient pas certaines couleurs, comme par exemple la couleur bleue ? Alors, on dit que certains, par exemple les Hébreux ou certaines peuplades, ne voient pas la couleur bleue, par exemple parce qu'il n'y a pas de mots pour représenter cette couleur.
Alors, je ne pense pas que ce soit nécessairement les mots. On peut ne pas avoir les mots pour... Par exemple, vous savez que les Inuits, on décrit la neige comme blanche et tout. Les Inuits ont un vocabulaire très, très développé pour décrire les différentes nuances de neige. La neige sucrée, la neige molle, la neige dure, enfin. Ils ont une très grande variété lexicale pour décrire la neige. Et c'est pareil, il y a des pathologies où on voit mal les couleurs. On peut ne pas distinguer le vert, par exemple, ou le rouge. Il y a des patients qui sont achromates, qui voient en noir et blanc, par exemple. Ça existe. Donc il y a différentes pathologies. Ces pathologies-là sont génétiques. Elles ont un substrat génétique, ce qui fait que des sociétés où il y a par exemple possiblement de la consanguinité peuvent avoir plus fréquemment des pathologies liées aux génétiques, enfin liées à la génétique, que d'autres. On voit ça dans les peuplades du pourtour méditerranéen. On sait qu'il y a un peu plus de consanguinité parce que les gens, pendant des siècles, ont vécu quand même dans des creusets géographiques. Et il y a, par exemple, plus de pathologies génétiques à ce sujet, et donc notamment des pathologies de vision des couleurs.
Est-ce que le rêve visuel, active le cortex visuel primaire?
Je pense que oui. J'ai pas de, mais je pense que oui, ça active le cortex visuel primaire. Et le rêve, on sait que le rêve entraîne des saccades oculaires, par exemple. Donc quand on rêve, on a des mouvements oculaires comme dans la vie, comme dans la vie réelle, telle que je vous parle maintenant. Donc ça active le cortex visuel primaire et ça donne en plus en réaction, comment dire, des réactions d'éveil finalement au niveau visuel.
J'étais là-bas, j'avais fait déjà plus de 30 ans, une étude qui portait sur des gens qui avaient chez eux une drôle de manie d'accrocher leur cadre de travers. Tout ce qu'ils avaient qui pouvait être accroché plus ou moins droit par nous était accroché de travers par eux. Donc ils ont essayé de voir quelles connexions pouvaient relier ces gens, s'il y avait des raisons particulières, en faisant tout un tas de batteries de tests. Et puis ce sont des tests sanguins qui ont fini par déterminer qu'ils venaient tous du même groupe d'Afrique, venus donc par bateau, évidemment, on se doute, dans une période assez trouble pour eux. Et ils avaient tous, à l'origine, donc ils sont allés voir les tribus qui continuaient à porter les bébés comme eux-mêmes avaient été portés dans le dos d'une certaine manière, qui occultaient une partie du champ visuel tant de temps par jour, qui fait que lorsqu'ils étaient plus grands, et même s'ils n'étaient plus portés de cette manière-là depuis des générations pour ceux qui étaient installés aux États-Unis d'Amérique, eh bien ils avaient continué à avoir cette façon d'appréhender l'espace qui n'était pas du tout les nôtres, et de mettre tout ce qui était droit de travers.
Dans ce même ordre d'idées, en fait, il y a aussi... Donc ça, c'est un phénomène qui s'est transmis. Hein, mais dans le même ordre d'idées, quand on fait des études européennes au niveau des varices, par exemple, on trouve que les Français ont beaucoup plus de varices que nos homologues, par exemple, allemands. Et ça a été expliqué en partie parce que Napoléon voulait des troupes de combattants à pied qui était nickel au niveau, et il fallait qu'il marche bien et tout, et donc il voulait pas de gens avec des varices. Donc finalement, les gens qui avaient des varices, ils sont restés chez eux, ils ont continué à procréer, alors que les gens qui n'avaient pas de varices sont allés se faire tuer sur les champs de bataille, et ça a sélectionné chez les Français les variqueux. Et de même, Napoléon, les Allemands paraissent plus grands que les Français en moyenne, et de même, Napoléon voulait des grands sur les champs de bataille pour impressionner l'adversaire, il voulait pas des petits rabougris avec des varices. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a sélectionné, il a gardé les petits variqueux qui ont continué à faire des enfants pendant que les autres, plus grands, plus robustes, avec moins de varices, se faisaient tuer. Il a sélectionné comme ça une prévalence plus forte des varices dans l'avenir et une prévalence plus importante des petits par rapport à nos homologues allemands. Non, mais ce n'est pas une légende, c'est une explication qu'on a trouvée.
Est-ce qu'un travail mental approfondi du type méditation ou ascèse peut augmenter la perception du spectre visuel dans l'infrarouge proche, notamment ?
Ça, je ne pense pas. Ça peut augmenter la concentration, donc une meilleure appréhension des perceptions visuelles, mais de ce qui est acquis. Après, le proche infrarouge, on ne peut pas nécessairement le voir précisément. D'ailleurs, nous, on fait des images en proche infrarouge en imagerie de la rétine, et ça nous apparaît comme étant des images en noir et blanc. Donc,
D'autres questions, remarques ? Oui,
oui.
Jean-Claude ?
Il y a des pathologies, j'en ai pas parlé, mais des pathologies rétiniennes où les patients consultent leur ophtalmo pour la première fois en disant je suis très gêné, chez moi je vois plus rien, je tombe et tout. Et c'est par exemple des rétinites pigmentaires. Et ce sont des patients qui ont des problèmes, des mutations qui conduisent à des anomalies de la transduction, donc des phénomènes biochimiques qui permettent de passer du stimulus visuel à un phénomène électrique. Et ces patients-là ont une molécule qui fonctionne mal, et notamment dans un contexte d'obscurité, ils voient très très mal les choses. Donc ils ont des accidents, ou ils sont très gênés, notamment quand ils entrent dans une salle de cinéma, ils ne voient plus rien. Et donc c'est vrai qu'il y a des pathologies qui sont un peu démasquées comme ça dans des, dans des, dans des situations un peu plus complexes.
C'est une question qui m'intéresse parce que l'autre soir, en rentrant dans le planétarium, il faisait noir, je me suis cassé la figure. Oh. Et c'est pour ça que... C'est large, c'est ça.
Non, mais il y a aussi une adaptation de la lumière à l'obscurité. Et on sait très bien que selon les individus, on peut avoir un temps d'adaptation, de passer d'une zone éclairée à l'obscurité qui peut être plus ou moins lente. Donc ça aussi, ça peut avoir expliqué votre chute.
La question initiale, c'était pas ça. C'est sur route, il y a des gens qui voient très bien de nuit et d'autres qui ne voient pas bien de nuit. Est-ce que c'est la même chose ?
Parce que moi, on m'avait toujours dit que c'est une question de concentration, de cône et de bâtonnet. C'est vrai ou c'est
une question ? Ça peut être une question de concentration, de cône et de bâtonnet, mais ça peut être aussi un état particulier de la personne.
D'accord.
Mais on a tendance quand même à mieux voir de jour que de nuit. Hein. Sauf les chouettes, qui voient mieux de nuit, mais elles vivent la nuit. Donc.
Justement, vous parliez du phénomène d'adaptation visuelle. Quelqu'un m'a dit un jour que pour s'adapter complètement, par exemple, à la vision d'une nuit étoilée sans lune, il fallait attendre 10 minutes...
Oui,
10 à 15 minutes, est-ce que c'est effectivement si long que ça ?
Il faut attendre un temps suffisamment long pour qu'on puisse avoir le maximum de détails. Il y a notamment des tests électrophysiologiques, comme par exemple l'électrorétinogramme, qui permet d'analyser les différentes structures rétiniennes. Et ces tests physiologiques, on attend 20 minutes dans l'obscurité, parfois, avant de commencer le test.
Et alors, quel est le mécanisme de cette adaptation ?
Le mécanisme, c'est un mécanisme moléculaire, en fait. Okay. On met notre système visuel à plat, et ça permet, il y a le cycle des rétinoïdes que je vous ai montré, le rétinol, je ne suis pas rentré dans les détails, mais il faut un certain temps pour que les molécules reviennent à leur état de départ, et c'est comme ça qu'on récupère le plus d'informations.
Au point, ai-je lu aussi ou entendu, que dans cet état de sensibilité maximum, la rétine est sensible à un photon bleu.
Ben, on voit très très peu, on peut voir... Dans le désert, il y a des expériences qui montrent qu'on peut voir quasiment à 20 km la flamme d'une bougie. Donc vous imaginez, il y a très très peu de photons, hein, une flamme de bougie à 20 km. Pareil, on peut voir des étoiles toutes petites à l'œil nu. Hein, les astrologues de l'Antiquité ont pu décrire des étoiles qu'on voit à peine, mais ils les ont décrites sans instrument d'optique en fait. Donc l'œil est très 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 sensible à un moindre stimulus lumineux, tout à fait. Pardon ? Les symptômes ? Ben quand on passe d'une zone sombre à une zone éclairée, on peut être gêné par la lumière parce que quand on est dans une zone sombre, la pupille est très très dilatée, donc le diaphragme de l'appareil photo, si je puis dire, est très ouvert. Et quand on passe dans une zone très éclairée, ben on est la pupille, le temps qu'elle se contracte, ça entraîne une douleur et un gêne, un éblouissement. C'est le même phénomène que vous aurez demain matin en vous réveillant, en allumant la lampe halogène au-dessus de votre bureau ou au-dessus de votre lit, parce que là aussi, vous passerez de l'obscurité la plus complète à la lumière la plus désagréable.
Parce que moi, j'ai une particularité, mais ça c'est depuis 11-12 ans, quoi. Donc ça me suit et je le vis très bien. C'est que quand je passe d'une zone peu éclairée, une zone sombre, et que je vais en pleine lumière, j'éternue.
Oui, ça
systématiquement.
Mais c'est vrai, ça peut arriver, hein, le phénomène d'éternuement. Nous, on le voit quand on examine des patients en ophtalmo à la lampe à fente. C'est une lampe qui éclaire beaucoup l'œil et ça fait éternuer. Je n'ai pas d'explication, mais c'est un processus réflexe.
Dans la mesure où une grande partie en fait, de la perception de la vue est due à un phénomène cognitif et intellectuel, est-ce qu'une personne qui est aveugle de naissance peut retrouver la vue si elle se fait opérer à l'âge adulte ?
Alors en fait, quelqu'un qui est aveugle de naissance, il y a plusieurs phénomènes. Quand on est enfant, on a des perceptions visuelles, enfin un circuit neuronal qui se complexifie de plus en plus, jusqu'à l'âge adulte où tout est à peu près fixé. Et on sait que les enfants, s'ils ont une déprivation oculaire, si par exemple pendant l'enfance, si par exemple à la naissance ils ont un angiome, une pathologie vasculaire qui masque la paupière, ou s'ils ont une grosse conjonctivite, ou s'ils ont, quel que soit le phénomène, quelque chose qui aboutit à l'occlusion d'un œil, parfois pendant quelques jours seulement, ils peuvent, ils peuvent développer une différence de vision entre les deux yeux, et ça conduit à ce qu'on appelle l'amblyopie, c'est-à-dire que on a une vision qui est moins bonne d'un œil que de l'autre, liée justement à un phénomène qui aura abouti à une diminution des stimuli visuels pendant un certain temps, alors que ces stimuli sont nécessaires au développement du circuit neuronal correct. Donc, par contre, quand on est aveugle de naissance, il est très difficile d'envisager justement une récupération visuelle parce que simplement le circuit neuronal n'est pas construit et on sait que c'est dans l'enfance que les choses se font le plus et le mieux.
D'accord, donc du coup, c'est pas impossible mais extrêmement difficile.
Voilà, en tout cas à l'état de la science actuelle.
Oui, il y a un phénomène curieux lorsqu'on pénètre dans des monuments, que dans ces monuments, il y a peu de lumière et que dans ces monuments, il y a des peintures murales. Alors, deux solutions pour voir les peintures murales, ou bien on allume effectivement et on voit la couleur, bon, mais si on n'allume pas, on voit beaucoup mieux les couleurs au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, lorsque l'œil s'est habitué, bien
oui,
évidemment.
Oui, parce que c'est le phénomène d'adaptation, justement.
Et, oui, que vous évoquiez tout à l'heure. Et alors, à la limite, est-ce qu'il vaut mieux allumer ou est-ce que...
Ça dépend, mais c'est quand même plus agréable de voir les choses à peu près bien éclairées, je pense.
Ah,
et dans les musées, en général, il y a une lumière un peu diffuse qui est assez faible, finalement. Je parle des musées comme le Louvre. Mais souvent, au niveau mural, il y a quand même un petit éclairage discret qui fait que la peinture est un peu mise en relief. C'est aussi une façon de découvrir les choses plus agréables. C'est que tout n'est pas éclairé de la même façon. On met un peu dans l'obscurité les gens qui visitent le musée. On les assoupit un peu, mais les choses qui sont d'intérêt, on les éclaire un peu plus discrètement. Mais on les éclaire un peu pour justement attirer un peu l'attention.
Et parce qu'on a le sentiment qu'on voit beaucoup plus de couleurs quand le monument reste dans la pénombre que quand on l'éclaire.
Oui, mais c'est souvent...
Tout simplement au baptistère Saint-Jean, là, à Poitiers, c'est beaucoup plus beau au niveau des couleurs dans la pénombre que éclairé.
Alors, ça peut être aussi le fait que tel monument se prête plus à tel contexte d'éclairage que tel autre. Il est sûr qu'un tableau, parfois, nécessite quand même un certain éclairage. Mais un bâtiment qui a été construit au Moyen-Âge, à l'époque où justement on vivait un peu dans l'obscurité, où les gens l'hiver restaient dans leur lit parce qu'ils mouraient de faim sinon, à l'époque où il n'y avait que des éclairages à la bougie, les gens s'adaptaient et construisaient finalement des monuments ou des bâtiments, enfin des monuments qui étaient adaptés à leur mode de vie et qui fait qu'il y avait finalement besoin d'assez peu d'éclairage pour mettre en relief quand même tout le caractère architectural ou artistique des monuments.
Je voulais vous poser une autre question qui n'a rien à voir avec la première. Comment se fait-il que lorsqu'on observe le soleil, un soleil un peu pâle à travers un voile nuageux léger, et que parfois on voit une seconde source lumineuse de la même intensité, mais assez décalée, très nettement décalée par rapport à la première?
Là, je n'ai pas trop bien compris votre question. Ça peut faire appel à des phénomènes de perception sensorielle, de perception visuelle. Quand vous regardez un point lumineux éclairé, vous pouvez faire ça chez vous sur une page, par exemple PowerPoint, vous faites un point bleu, vous la regardez un certain temps, vous fermez les yeux et en fermant les yeux, vous voyez encore cette sensation.
Oui, mais
donc ça peut faire appel à ce phénomène.
Et là, il ne s'agit pas de fermer les yeux parce que si vous regardez, par exemple, l'hiver, le soleil n'est pas trop fort, donc ça va, on peut regarder, surtout s'il y a quelques nuages. Et vous avez à ce moment-là la sensation d'une lumière... blanchâtre, un peu forte, vaguement un petit peu jaune sur les bords, et puis en même temps vous percevez à 30 degrés d'écart le même point lumineux comme la réplique du premier, finalement, avec la même intensité. Je me suis souvent demandé,
mais si vous percevez à quelques degrés d'écart, c'est que vous bougez un peu l'œil, j'imagine.
Non, je reste fixé sur le premier et on voit le second apparaître.
Je n'ai pas d'explication. Ça peut être peut-être expliqué par des phénomènes de diffraction au travers des nuages, par exemple.
Je crois, oui, que c'est un phénomène atmosphérique, en fait, de diffraction.
Je pense.
Mais j'en reviens à la question des peintures. Est-ce que ça ne serait pas raisonnable de se dire que on voit d'autant mieux une peinture ou une œuvre en couleur qu'on la voit sous le même éclairage qu'il y avait lorsque le peintre l'a réalisée.
Bah, je pense que c'est vrai que ça me paraît fondamental. Enfin, en théorie, c'est ce qu'il faudrait. Il faudrait que les peintures soient exposées telles que le peintre le souhaitait. Hein. Je ne sais pas, moi, on ne peut pas imaginer, les peintures de Monet sur la cathédrale de Rouen exposées en plein jour, en pleine lumière, par exemple. On ne peut pas imaginer les nénuphars de Monet exposées là également en pleine lumière, à midi, en plein jour. Donc les peintures s'intègrent dans un contexte, dans un contexte de luminosité qui est tout à fait particulière à telle ou telle œuvre.
Ça rejoint ce que vous disiez au tout début, en parlant des débuts de la médecine oculaire, c'est-à-dire la sensation qu'en effet ce sont soit les yeux qui vont projeter quelque chose sur les objets, ou on finit par en déduire que finalement ce sont les objets qui amènent quelque chose qui va vers l'œil. En termes artistiques, la perception de la peinture, la perception d'un pigment, c'est aussi le confort que peut avoir l'œil d'avoir la sensation qu'en effet, la lumière vient non pas de l'extérieur du tableau, mais du tableau lui-même. Et c'est pourquoi, par exemple, le musée Goya à Castres a dû être refait de fond en comble entièrement parce qu'on ne voyait pas les tableaux et qu'ils se sont rendus compte que leurs tableaux, à force de ne pas les voir, ils s'étaient entachés de saleté, qu'ils s'étaient imprégnés. Il a fallu absolument tout nettoyer, tous les tableaux, y compris les deux grands Velázquez qui étaient là-bas. Et depuis, le public voit enfin les tableaux et a l'impression que la lumière vient vers eux. C'est quand même, il était temps.
Il était temps. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est ce que les artistes ont fait du traitement de la lumière, justement, quand ils peignent des tentures colorées, je pense au Gréco, par exemple, quand ils peignent des tentures colorées, ils ont intégré l'idée que la lumière, que l'objet était perçu un peu de la même couleur, mais qu'il y avait des teintes, des variations de couleurs sur telle tenture qui est pourtant de la même couleur si on l'appliquait sans aucun repli à notre vision. Et donc, ils ont tout à fait intégré l'idée et ils ont beaucoup travaillé justement sur le traitement de la lumière et le traitement des formes et des couleurs. Les impressionnistes ont été les premiers à dire qu'on ne voit pas les choses telles qu'on voulait les représenter jusqu'à présent, avec des traits droits. Et ils ont mis en place justement cette image un peu floutée de la réalité qui est leur image, leur perception, qui était leur image et leur perception du monde. Le Gréco, par exemple, peignait des personnes très élancées, très élancées, et on sait que a priori il était astigmate. Donc il voyait des choses déformées à une époque où malheureusement les verres pour les astigmates et encore moins les lentilles n'existaient. Et donc il peignait les choses telles qu'il les voyait, des gens très élancés. Edouard Munch, par exemple, celui qui a peint le Cri. Qui était dépressif, alcoolique, malheureusement, mais celui qui a peint le Cri, il était à la fin de sa vie, il avait une cataracte importante et il peignait des choses beaucoup plus jaunes. Hein, parce que justement, quand on a une cataracte, le cristallin est opacifié et on perçoit plus de jaune dans son environnement et beaucoup moins les couleurs comme ça. Et donc, il y a une évolution de sa peinture vers le jaune. Donc, on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a des. L'histoire de la peinture, c'est aussi l'histoire des peintres et parfois de leur pathologie.
Je suis un peu gêné par l'explication. J'aurais presque l'explication opposée.
De quoi ? De la.
Si quelqu'un met beaucoup plus de jaune dans la peinture, vu par vous ou par moi, c'est qu'il a besoin qu'il y ait plus de jaune dans la peinture pour que lui ait la vision habituelle.
Lui, en fait,
c'est pas parce qu'il voit les choses en jaune, c'est plutôt qu'il a du mal à percevoir le jaune et il en met donc beaucoup.
Il avait malheureusement. C'est dans ce sens-là, plutôt. Mais le fait d'avoir un filtre jaune sur l'œil lui faisait qu'il avait du mal à interpréter les couleurs. Et donc, à cause de ça, il mettait plus de pigments jaunes dans ses couleurs.
Oui, parce qu'avec le filtre jaune, il ne percevait plus le jaune, justement. C'est pas qu'il voyait les choses en jaune, c'est qu'il avait un filtre jaune.
Il voyait un peu plus jaune, voilà. Le fait d'avoir un filtre jaune, vous bloquez certaines couleurs.
C'est l'inverse.
Et justement, naturellement, quand on a une vue, disons, normale, est-ce que toutes les couleurs sont vues de façon identique ou égale, on va dire, selon les fréquences, les bandes de fréquences?
Je pense pas. Je pense pas. On voit beaucoup plus les pulls rouges, par exemple, que on prête beaucoup plus attention, en tout cas, à un pull rouge qu'à un pull vert. pour ne citer que vous en exemple, mais je pense qu'on n'a pas du tout la même... Mais ça, c'est aussi un peu des phénomènes cognitifs. Et c'est très intéressant parce que, comment dire, on voit les personnes par la vision, hein, encore une fois. Mais il est incroyable de se dire que des animaux n'ont pas de vision et arrivent à se déplacer sans leur vision. On pourrait même, à ce point, citer cet exemple, imaginer un odorat extrêmement développé qui nous permettrait d'avoir une idée de la structure de la pièce grâce à cet odorat développé. Vous voyez, donc, on a la vision parce qu'on l'a développée, peut-être à cause de l'homme chasseur-cueilleur, je ne sais pas, mais on a développé cette vision au fil des siècles et on en a fait un organe sensoriel prédominant par rapport aux autres sens. Mais néanmoins, il y a d'autres façons de voir les choses. Les abeilles voient dans le spectre non visible. Elles voient donc des choses que nous, on ne voit pas. Donc, après, trouver la normalité, voilà. C'est comment appréhender la réalité au plus vrai. Et donc, c'est la vision qui nous le permet actuellement. Mais d'autres espèces ont développé d'autres systèmes, d'autres stratégies pour appréhender la réalité. Oui, madame ?
D'onde.
Oui, tout est question de longueur d'onde, oui, hein, dans les
mais
couleurs.
J'avais cru comprendre que la longueur d'onde de la couleur rouge, on voyait la couleur rouge, on l'apercevait plus rapidement que le vert du pull de monsieur, mais enfin, c'est pas...
En fait, toutes les couleurs émanent d'une longueur d'onde différente. Le bleu, oui. Le rouge, ça c'est le spectre visible.
D'accord.
Et on perçoit plus certaines couleurs que d'autres. Par exemple, les myopes, comment dire... Les myopes voient un peu plus dans le rouge que dans le vert. À l'inverse, les hypermétropes voient un peu plus dans le vert que dans le rouge. Un peu mieux dans le vert que dans le rouge.
Non, mais je croyais justement que le rouge, comme on le percevait plus vite, pour tout le monde, enfin, si on a une vue assez normale, c'est pour ça qu'on a choisi le feu rouge pour faire arrêter les voitures et le feu vert pour les laisser passer. Ou le stop, ou les voitures de
pompiers. Le feu rouge est plus synonyme d'alerte. Ça rappelle le sang. C'est peut-être, c'est peut-être un atavisme de nos ancêtres c'est la couleur du sang. C'est donc quelque chose d'urgent, de grave. C'est peut-être pour ça qu'on a choisi le rouge et le vert qui est plutôt apaisant, hein, le vert des prairies, le vert végétal.
Oui, alors que moi, donc j'avais cru comprendre que le rouge, il était parce qu'on la voyait plus vite. Donc on se disait, ouf,
on le voit peut-être plus vite, mais on le voit peut-être plus vite parce qu'on a sélectionné cela au cours des siècles.
D'accord.
Le sang.
Parce que moi, sur la vision des couleurs, par exemple, une photo, là, est-ce que c'est une représentation objective ou non ? Par exemple, suivant la technique qui évolue, par exemple, il y a 50 ans, on sait bien que les photos, on les datait, mais maintenant, est-ce qu'on a une représentation objective ou alors humaine ?
Je pense que c'est... On ne peut pas dire objectif. Ouais. Ça dépend du sens qu'on utilise. Si vous aviez cette image-là de...
C'est Sivo, hein.
Cette image de Sivo avec un balayage radar, on aurait aussi une image entre guillemets objective parce que ce serait un balayage radar. Donc c'est pas je pense pas qu'on puisse parler d'objectivité, mais plutôt d'une interprétation de la réalité. Ça, c'est une construction, une interprétation de la réalité qu'on a, qui pourrait être vue très différemment par une abeille, par un chien. Les chiens sont myopes et voient en noir et blanc, donc lui il verrait flou et en noir et blanc. Et pourtant, pour lui, ça serait encore une interprétation de la réalité. Après, le fait d'en être conscient fait que nous sommes des hommes et le chien reste un chien. Je veux dire, le fait d'en être conscient peut nous permettre de comprendre les mécanismes perceptifs des autres espèces. On n'aura peut-être pas là aussi, dans 100 ans, on aura, à mon avis, la même vision. Les choses évoluent quand même très, très lentement. Donc merci à vous d'être venu. Vous êtes déplacé sous la pluie.
Merci, surtout à vous. Merci beaucoup pour cet exposé. Je ne peux pas dire que vous nous en avez mis plein la vue, mais en tout cas, je crois que nous garderons quelques étoiles dans les yeux en sortant. J'espère. Merci beaucoup. Et vous êtes entré tout à fait dans ce thème du festival, l'essence. C'est essentiellement l'un des sens, encore qu'on ait eu l'occasion de parler à l'occasion d'autres de ces sens. Et comme vous avez vu, le festival n'est pas terminé. Il est terminé pour ce soir, quand même, je vous rassure. Mais dès demain, les choses reprennent. Et alors, vous avez tous le dépliant. Si vous ne l'avez pas, je vous recommande de le prendre à la sortie. Il y en a un certain nombre ici qui traînent. Et je me contenterai de vous rappeler demain qu'il y a un film ici même, enfin plus précisément au Planétarium, donc en face, un film Le Collège des Légumes, Le Solfège du Légume, j'ai des problèmes de vue. Un spectacle qui suit à la chapelle des Augustins, mais c'est encore une histoire de vue, ça, parce que c'est le chat, la chauve-souris et les autres. Et que, après une conférence sur la maladie d'Alzheimer, nous aurons le soir une conférence qui fera intervenir beaucoup plus notre système auditif, puisque c'est Jérôme Pernaud qui viendra nous parler de l'harmonie à la chapelle du CRDP, pas loin d'ici. Ça, c'est seulement pour demain. Le reste, je vous laisse le découvrir. Merci à vous tous, à bientôt.